L'écho de mes pensées. Autofiction de Sylvie Troyer.
Mes pensées se mettent à se faire écho les unes aux autres. C'est la première fois que cela m'arrive. Je suis à la montagne, seule.
Seule? Comment ça, seule? Pas de copine? Pas mariée? Toujours célibataire? À ton âge?
Chaque année, la question des vacances se pose impitoyable. Quoi faire de moi? Cette année, pourtant, je me suis mieux débrouillée que d'habitude. Après 10 ans de thérapie, je me suis enfin fait des amis, un couple. J'ai loué un studio dans la station thermale où ils vont d'habitude. Je les ai invités un soir. Nous avons pris une autre fois le thé ensemble. Le reste du temps, je suis seule. Aujourd'hui, lasse de me baigner dans l'eau chaude et de regarder des inconnus qui bavardent, je rassemble mon courage. Je monte au col de la Guémie. Incapable de me tenir sur des skis, j'emprunte des raquettes à neige à la station de la télécabine.
Des raquettes à neige? Pauvre empoté. Toujours à te faire remarquer, hein? Tu n'as jamais été capable d'apprendre à skier.
Je fais à peine 300 mètres et déjà, des gens m'adressent la parole. C'est plutôt sympathique. Ils veulent s'informer de cette pratique originale.
Tu vois, ils sont ensemble les autres. En famille, en couple. Il fait quoi à cette heure ton amant secret et honteux, hein? Il baise sa femme? Petite putain, va.
Traîner, garce.
Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Les montagnes semblent se rapprocher. La neige étincelle. Les yeux me brûlent. Ma tête va exploser. Mes médicaments, vite!
Mes médicaments, vite!
Ma bouteille d'eau, où elle est ma bouteille? Ma pilule bleue. Rentrez, vite, il faut que je rentre.
Ma bouteille d'eau, où elle est ma bouteille? Ma bouteille, ma pilule bleue, vite, il faut que je rentre.
Mes pensées se répètent maintenant et défilent au-dessus de mes yeux comme une bande-annonce lumineuse. Je suis persuadée qu'elles le font exprès pour se moquer de moi. Je suis dans une angoisse d'une intensité inimaginable. Je ne suis plus qu'un animal en fuite, aveugle, sourd, à tout ce qui n'est pas sa survie. C'est comme si j'étais prise dans une catastrophe, un tremblement de terre. En trébuchant, en courant, en tombant parfois, je rejoins la station. Je rends les raquettes. Je reprends la télécabine. Plus d'une heure a passé. L'angoisse est toujours aussi forte. Le médicament n'a fait aucun effet. En plus, je tremble que quelqu'un ne s'aperçoive de mon état. Enfin, j'arrive au studio que j'ai loué à la station thermale. Je reprends une dose de neuroleptique, puis encore une et encore une. Les heures passent interminables. Toujours aucune amélioration. Je ne peux plus en supporter davantage. Je prends le téléphone pour trouver un médecin de garde. Malheureusement, nous sommes un samedi et il est 19h.
Vous n'y pensez pas, madame, un week-end. Il faut descendre dans la plaine.
Vous entendez bien le docteur Stutz par son répondeur. Le docteur est absent jusqu'à lundi. En cas d'urgence, composez le 041 346 95 84.
Voyons. Oui, 041 346 95 84.
Non, madame, mon mari ne se déplace qu'en cas d'urgence grave. Attendez lundi, voyons. Ou alors descendez en plaine. Mais je ne suis pas sûre que là vous trouviez quelqu'un.
Mon mari ne se déplace qu'en cas d'urgence grave. Attendez lundi, voyons. Attendez lundi.
Tu n'en trouveras personne. Personne. Ton psy est en vacances.
C'est les vacances, madame.
Je comprends maintenant. On ne me prend pas au sérieux. On ne me croit pas. Alors fébrilement, je fais mes bagages. Je commande un taxi pour descendre, regagner la plaine. Avertir le couple d'amis qui m'ont justement invité ce soir-là, leur demander de l'aide? Impossible, j'ai trop honte, je me sens trop mal. Je n'ai plus qu'une idée en tête. Rentrer chez moi. À Lausanne, et puis m'annoncer à l'hôpital psychiatrique, si encore on veut bien m'y accepter comme cela, en pleine nuit. Je paye mes 15 jours à la propriétaire du studio interloqué. Mon angoisse, mon mal de tête sont d'une telle violence que ma vue est brouillée, et que la dame doit elle-même compter mon argent. Le taxi arrive. Devant la maison de mes amis, j'arrête la voiture et furtivement, en me cachant, je glisse un billet d'excuse à leur porte. Enfin, la plaine, la gare, le train pour Lausanne, pour chez moi. C'est le dernier, il n'y en aura plus ce soir. À l'intérieur, je crois d'abord me sentir mieux, puis... les choses deviennent pires. Le chaos, le bruit, les heures que j'ai déjà passées dans cet état, je n'en peux plus. Je crois que je ferais mieux de sauter.
Saute, petite, saute.
Il n'y a personne dans le compartiment. J'étouffe. Je vais exploser. Ah, voici le contrôleur. Lui parler, ça m'aiderait peut-être. Il poinçonne mon billet. Monsieur, je me sens un peu mal.
Que puis-je faire pour vous, madame? Ça peut arriver, un malaise. Un peu d'air frais vous ferait du bien? J'ouvre la fenêtre?
Non, 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 merci, surtout pas.
Saute, petite, saute.
Vous êtes sûre que ça ira?
Oui. Oui, monsieur. Oui, c'est rien. Ne vous en faites pas. Ça va passer.
Tu dis ça. Tu dis ça. Petite traînée. Tu dis ça.
Saute donc. C'est pour ton bien.
Ça va passer.
Le docteur n'est pas disponible. C'est les vacances, madame.
Allez, saute.
Le train s'arrête. On n'est pas à Lausanne. De loin pas. On est dans une petite ville, une petite gare, toute noire. Tant pis. Je me sens trop en danger. Je prends mes bagages, je descends. Tout est désert. À 100 mètres, une cabine téléphonique. J'y vais. En tremblant, je reprends l'annuaire, ma monnaie. Prise de spasme dans tout le corps, et je recommence mes téléphones.
Voyons, ce n'est pas si grave, ce n'est pas si grave.
Vous n'êtes pas dans une grande ville ici, madame. Il n'y a pas de médecin de garde.
Ici le cabinet du docteur Lévra. Le docteur est absent.
Il faut absolument que je trouve de l'aide. La police, jamais. Je finis par aboutir dans une clinique privée tenue par des religieuses. Oui, ma sœur, je vous entends bien. C'est un établissement privé. Oui. Vous dites, le médecin dort. Vous ne voulez pas le réveiller. Ce n'est pas une clinique psychiatrique. Bon, d'accord. Mais je n'en peux plus, moi. Je n'en peux plus. Ça fait plus de 8 heures que je cherche de l'aide. Oui, je m'énerve. Je vais être là dans les 5 minutes, madame. Et je vous conseille de le réveiller, ce médecin. Il n'a qu'à regarder ses bouquins, nom de Dieu. Je m'en fous complètement. Si vous ne m'ouvrez pas, je hurle. Je fais un scandale. À la clinique, une religieuse me reçoit. Visage de bois, narines pincées. Le médecin me regarde de haut, glacial. On me l'a fait enfin, cette piqûre, mais de si mauvais gré que je me sens encore plus misérable avant de sombrer, enfin, dans le sommeil. Le lendemain, je me réveille très tard, complètement hébétée. Dans le lit, à côté du mien, appuyée à ses oreillers, une vieille dame toute menue est en train de tricoter une chaussette de laine. Elle me regarde en souriant et me dit, avec un peu d'envie dans les yeux,
« Vous en avez de la chance, mademoiselle, de pouvoir dormir comme ça ?»